Deux jours après l'explosion de l'usine Lubrizol à Rouen et malgré les déclarations rassurantes des autorités, au moins deux personnes ont décidé de porter plainte contre X, selon les informations de France Bleu Haute-Normandie, recueillies auprès de l'avocat des deux plaignants. Nous l'entendrons dans ce journal. Après avoir voté hier l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, les députés se penchent actuellement sur l'article 2 de la loi bioéthique, la possibilité d'autoconserver ses ovocytes. Les précisions dans quelques instants de Daniel Messager. Et puis nous irons dans ce journal en Afghanistan. 9 700 000 électeurs sont appelés aux urnes ce samedi pour élire un nouveau président. Sur les 18 candidats en lice, 15 ont maintenu leur candidature malgré un contexte de haute tension. Deux jours après l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen, autorités et élus tentent de rassurer la population. Si la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, reconnaît que la ville est polluée, la préfecture de Seine-Maritime rappelle que cette pollution n'est pas d'une toxicité aiguë et qu'il y aura d'autres résultats rendus publics aujourd'hui. Le préfet de Seine-Maritime tiendra d'ailleurs une conférence de presse à 17h. Yvon Robert, le maire socialiste de Rouen, appelle à la patience.
Il y a des premiers prélèvements sur les fumées qui ont été faits, très nombreux, hein, plusieurs dizaines de prélèvements dans plusieurs endroits. Il y a eu des premiers résultats et les analyses les plus rapides.
On maintenant, le sait depuis hier, mais maintenant,
il y a l'INERIS qui fait des analyses complémentaires, approfondies, c'est-à-dire qu'ils vont chercher tous les types de matériaux qui peuvent être dans les fumées. On a de l'impatience et bien entendu on demande tous, mais les élus, la population, tout le monde, mais le préfet lui-même, il demande à les avoir le plus vite possible. Maintenant, il faut aussi, je le fais aussi, être capable de se mettre à la place de scientifiques qui, lorsqu'ils vont parler, lorsqu'ils vont dire c'est pas dangereux ou c'est dangereux, et leur responsabilité à ce moment-là est extrêmement, extrêmement précise et elle repose tout entière sur eux.
Une déclaration qui ne convainc pas. Au moins deux personnes ont décidé de porter plainte contre X en attendant que l'enquête lancée par le procureur indique des responsabilités. Ces plaintes sont la conséquence de vomissements et de malaise. L'avocat Jonas Haddad et leurs conseils, on l'écoute.
On a reçu des appels à la fois de personnes qui sont des particuliers, mais également parfois d'entreprises. Certains se sont plaints d'avoir eu des nausées importantes, d'autres ont été obligés d'aller à l'hôpital. L'un des plaignants a eu un malaise pendant la nuit à cause de ça, alors qu'il n'est jamais d'habitude pris de vertige et il est tombé la tête la première, ce qui lui a occasionné des points de suture. Là, on a une autre personne même qui m'évoque le fait qu'il avait stocké des eaux et l'intégralité des eaux ont été souillées en fait par les suies d'hydrocarbures. Et ça fait deux jours que lui aussi ne peut pas sortir de chez lui. Donc il lie ça effectivement à ce qui s'est passé chez Lubrizol. Il y a un article du code pénal qui prévoit que le dommage corporel par manquement à une obligation de sécurité est sanctionné de 2 ans d'emprisonnement. Donc on a des qualifications juridiques qui nous permettent derrière d'enclencher des procédures.
Et l'avocat Jonas Haddad précise que d'autres dépôts de plaintes vont suivre dans les prochaines heures. La France se prépare un fervent hommage d'adieu à Jacques Chirac, décédé jeudi dernier à l'âge de 86 ans, deuil national. Une minute de silence sera observée dans les stades ce week-end et les écoles lundi. Une cérémonie populaire aura lieu ce dimanche à 14h sous le Dôme des Invalides. Tous ceux qui l'ont aimé pourront venir se recueillir auprès du cercueil, a annoncé son gendre Frédéric Salabarou. Après avoir voté hier l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, les députés se penchent actuellement sur l'article 2 de la loi bioéthique concernant la possibilité d'autoconserver ses ovocytes. En clair, il s'agit pour une personne majeure de pouvoir bénéficier de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure d'une PMA. Il y avait une demande assez forte car de nombreuses femmes, voyant les années passées sans avoir trouvé le père pour un futur enfant, se rendaient à l'étranger, en particulier en Espagne, pour y procéder à une autoconservation, mais encore fallait-il en avoir les moyens? Cette mesure va permettre à toutes les femmes qui le souhaitent d'y avoir accès, comme nous l'explique Daniel Messager.
Émilie a 35 ans. Il y a 4 ans, elle a fait conserver ses ovocytes. Comme ce n'était pas autorisé par la loi, elle l'a fait dans un cadre alors très particulier, donné pour une femme infertile, avec le droit, si elle en produisait beaucoup, d'en conserver quelques-uns pour elle. Sinon, elle aurait dû débourser plusieurs milliers d'euros pour le faire à l'étranger, là où c'est autorisé. Cette ouverture de la loi, c'est pour elle la fin d'une sorte d'injonction faite aux femmes d'avoir rapidement un enfant après 30 ans à cause d'une horloge biologique implacable.
L'idée même de faire un enfant dans l'urgence, pour moi, ça n'avait pas de sens. Ni les bonnes conditions, matérielles, financières, ce n'était pas le moment. Allez dire ça aux gens. Quand vous essayez de parler de ça, ils vous disent tout de suite « Oh là là, mais vous allez trouver le prince charmant, vous inquiétez pas !» Qu'on entend dire « Bah voilà, les femmes sont carriéristes, donc elles veulent conserver leurs ovocytes », ce qui n'est pas tout à fait le cas en fait. C'est que toutes les femmes, qu'elles soient entre guillemets carriéristes ou pas, toutes les femmes ont le droit d'avoir accès à l'autoconservation, quel que soit leur emploi, quel que soit leur choix de vie. C'est juste socialement quelque chose d'important auquel toutes les femmes ont le droit d'avoir accès.
L'âge auquel une femme pourra procéder à une autoconservation de ses ovocytes sera encadré par décret. Le recueil et le prélèvement seraient pris en charge par l'assurance maladie, mais pas le coût de la conservation qui resterait à la charge des bénéficiaires.
Journée électorale en Afghanistan marquée par de multiples explosions à travers le pays. 9 700 000 électeurs sont appelés aux urnes ce samedi pour élire un nouveau président. Sur les 18 candidats en lice, 15 ont maintenu leur candidature, mais tous les regards sont rivés sur les deux principaux rivaux, Ashraf Ghani, le président candidat à sa propre succession, et Abdullah Abdullah, le chef de l'exécutif. Cette élection se tient dans un contexte de haute tension. Reportage à Kaboul de Sonia Ghezali.
Il n'y a pas foule dans ce bureau de vote du centre de Kaboul qui a ouvert ses portes avec 1h30 de retard. Dans la mosquée, reconvertie le temps du scrutin, les électeurs arrivent au compte-gouttes. Certains repartent même aussitôt qu'ils sont arrivés, déçus et agacés.
Ils ont vérifié les listes et ils n'ont pas trouvé mon nom. Le chef du bureau de vote m'a dit que malheureusement mon nom n'existait pas dans le système et que c'était sûrement une erreur de la commission électorale. Du coup, je n'ai pas pu voter. J'ai déposé une plainte dans une boîte à l'intérieur avant de partir.
Cet électeur n'est pas le seul dans cette situation. Derrière lui, d'autres connaissent le même sort. Des dysfonctionnements comme celui-ci ont été recensés dans tout le pays. Selon les médias locaux, des centaines de bureaux de vote n'ont pas pu ouvrir leurs portes, faute de matériel électoral. Les bulletins de vote, les urnes, les isoloirs n'ont jamais été livrés.
Sonia Ghezali, correspondante de RFI pour France Culture. Élection législative en Autriche demain, l'ex-chancelier Sébastien Kurz se présente d'ores et déjà comme le grand favori. Un retour prématuré aux urnes déclenché par le scandale de l'Ibizegate qui a fait chuter le leader du parti d'extrême droite, SPE, et avec lui le gouvernement de coalition. À Vienne, le reportage de Louise Baudet.
Dans le centre de Vienne, comme chaque semaine, on manifeste pour le climat.
Nous sommes ici, nous faisons du bruit parce qu'on veut nous voler notre avenir.
Du monde dans la rue et des voix dans les urnes, les Grünen autrichiens surfent sur la vague. Les sondages leur prédisent 13% des suffrages, trois fois plus que lors des dernières législatives. Pas de quoi inquiéter néanmoins Sébastien Kurz, ex-chancelier bien parti pour le rester.
Je pense que Sébastien Kurz est sûr de gagner. Si les Verts entrent en coalition avec lui, ils pourront avoir une influence bénéfique. De toute façon, ça ne peut pas être pire qu'aujourd'hui.
Une coalition écolo-conservateur plutôt que le retour au gouvernement du FPE. Le parti d'extrême droite qui tient meeting au même moment dans un quartier populaire de la capitale.
À la manif pour le climat, ils bloquent la circulation, ils déclenchent le chaos et ils aggravent le bilan carbone.
Mais ce qui marche ici le mieux, c'est évidemment l'immigration.
Il y a suffisamment de pauvres en Autriche, c'est eux qu'il faut soutenir. Mais pour eux, il n'y a pas d'argent. Et tous ceux qui viennent chez nous, là, ces ordures, ils ne viennent que pour l'argent qu'on leur donne, parce qu'ils ne veulent pas travailler.
Preuve que le FPE peut encore compter sur ses fidèles, malgré les scandales et malgré la fuite d'une partie de son électorat.
Avant, oui, j'ai voté FPE, mais pas les dernières fois, parce qu'on a vraiment le meilleur chancelier. Kurz, c'est un phénomène, vous pouvez le mettre n'importe où, il passera toujours bien.
Un phénomène crédité de 33% des intentions de vote, mais qui ne sait pas encore avec qui il va gouverner.
Des centaines de milliers de personnes ont défilé pour le climat dans les rues de Montréal hier, à leur tête Greta Thunberg. Un nouveau vendredi de grève pour le climat qui a une nouvelle fois mobilisé le pays. De nombreux lycées et universités étaient fermés. Dans la ville de Québec, la manifestation avait elle aussi une ampleur inégalée, comme l'a constaté Pascal Guéricola.
Dans les rues de Québec, les collégiens, les lycéens et les étudiants réclament des comptes à leurs aînés pour leur inaction face au changement climatique.
Dans 100 ans, on estime que le climat va augmenter de 7 degrés. Ce n'est pas les adultes qui vont avoir les conséquences de ça. C'est nous, et c'est à nous d'agir maintenant.
Un des organisateurs de la marche, André Bellil, dénonce l'hypocrisie du gouvernement de Justin Trudeau qui a investi dans un pipeline après avoir signé l'accord de Paris.
Je me souviens encore de Justin Trudeau à Paris, la main sur le cœur, qui nous disait « On va faire tout ce qui est possible, on va être les leaders dans le monde ». Et au même moment, les projets de pipeline.
À Montréal, rarement a-t-on vu autant de monde battre le pavé pour réclamer que le gouvernement s'attaque au changement climatique. Greta Thunberg en tête.
Le changement arrive, si vous l'aimez ou non.
Reste à savoir maintenant quel effet aura cette mobilisation sur les élections canadiennes de fin octobre.
Pascal Guéricola à Québec.
La bulle économique, Marie Viénot.
12h40 sur France Culture, aujourd'hui encore, eh bien la bulle économique se fait écologique et Marie Viénot nous dit tout sur le budget vert que le gouvernement a promis pour 2021.
En cette rentrée, le vert est partout, y compris dans le budget de l'État. Bercy s'y est engagé. En 2021, le budget sera vert. Disons-le d'emblée, un budget vert, ce n'est pas un budget écolo. Le vert, c'est pour la forme, pas pour le fond. Un budget vert, c'est un budget présenté sous une forme qui permettra de jauger en un coup d'œil si une dépense ou une recette a un impact favorable, défavorable, inconnu ou neutre sur l'environnement. Le travail qui s'annonce est dantesque, mais on ne part pas de rien. Cette semaine, l'IGF, l'Inspection Générale des Finances, grand corps des narques de Bercy, a rendu un rapport qui propose une méthode pour une budgétisation environnementale. Ce que nous proposons, résume un des auteurs, c'est comme un Nutri-Score, autrement dit, des couleurs. Trois nuances de vert, du blanc et du marron sont proposées pour qualifier l'impact de l'action publique sur l'environnement et éclairer le choix des parlementaires qui devront ensuite discuter, amender et voter ce budget. Alors pourquoi trois nuances de vert ? Parce qu'il y a les actions directement favorables, indirectement favorables et controversées. Il y a en plus plusieurs objectifs environnementaux. De la lutte contre le changement climatique à la gestion de l'eau, des déchets, la biodiversité, la pollution et l'encouragement à l'économie circulaire. Or, il arrive qu'une action soit favorable à un des objectifs, mais pas aux autres. Financer la recherche nucléaire, par exemple, c'est bon pour le climat, mais mauvais pour les déchets. Ça ne mérite donc pas un vert foncé, mais vert anis. La forme d'un budget peut-elle influencer son fond ? Oui, c'est possible. Depuis 2006, l'efficacité des dépenses de l'État est mesurée par des indicateurs de performance qui parfois ont pu pervertir le but poursuivi. On soigne l'indice, pas le malade. C'est une critique qui revient fréquemment dans l'hôpital, mais aussi à la police, chez les magistrats et les chercheurs. Il arrive aussi que des changements formels soient sans effet. En 2015, 10 indicateurs de richesse ont vu le jour, taux d'emploi, inégalité de revenus et même déjà empreinte carbone. L'objectif aussi était louable, ne pas laisser le PIB et sa croissance dominer le débat budgétaire. Mais pour le moment, ces nouveaux indicateurs ont été publiés 4 mois après le vote du projet de loi de finances. Ils étaient donc totalement absents des débats. Les pastilles vertes, marron et blanches connaîtront-elles le même sort ? Non, assure l'IGF, car on les trouverait directement dans les documents budgétaires, donc publiés en même temps. Bien, mais alors qui va choisir les couleurs ? Qui pour dire aux techniciens du budget, là c'est pastille verte, là vert foncé, là blanc ? Comment seront tranchées les controverses nombreuses sur les questions environnementales et comment être sûr qu'entre deux études, ce n'est pas la plus favorable à un verdissement du budget qui sera choisi ? La question de l'évaluateur est cruciale, or elle n'est pas tranchée. Autre question capitale, comment faire quand on ne sait pas, quand les données et les études manquent ? L'IGF a prévu la couleur blanche pour ça, mais c'est aussi la couleur qu'elle a donnée aux mesures qui n'ont pas d'effet sur l'environnement. Étrange parti pris qui mélange ce qui est neutre à ce qui est incertain, comme si c'était équivalent. La cotation proposée cette semaine doit donc être améliorée. Elle devrait prévoir au moins un débat contradictoire avant chaque choix de pastille et un compte-rendu transparent de ces débats. Ce sera chronophage, mais c'est primordial pour que ce Nutri-Score, inédit et encore jamais testé à l'échelle d'un État, n'étouffe pas les questions qui fâchent. Car une fois posées, les pastilles donneront un signe réputé objectif du caractère vert ou marron des choix budgétaires. Il faut donc qu'elles contiennent à minima une intention de vérité. Vert budget, verte finance, verte croissance, le vert, c'est tendance, mais ça ne va pas avec tout.
Merci Marie Viénot. Et avant la fin de ce journal, un mot du temps cet après-midi, marqué par une amélioration au sud du pays, sur le sud-est et en Corse. Le soleil s'imposera sur les côtes de la Manche. Le vent de sud-ouest soufflera jusqu'à 60-70 km/h en rafale. Au nord de la Loire, risque de pluie plus faible, mais le ciel restera nuageux à très nuageux. Des températures entre 17 à 25 degrés du nord au sud, jusqu'à 26 à 29 degrés dans le sud-est et en Corse. Voilà, c'est la fin de ce journal préparé avec François-Charles Domergue. Je vous retrouve à 18h pour le prochain journal de la rédaction.